Brixton.
Rendez-vous maintenant avec donc Isabelle Renard pour la présentation de ce musée national de l'histoire de l'immigration à Paris et donc aussi cette exposition dont elle va nous présenter le contexte mais aussi les artistes présentés. Notamment tout à l'heure, nous aurons le plaisir d'accueillir Wu Xiaofan, qui est un de ces artistes, donc après donc cet entretien que nous allons mener avec Madame Isabelle Renard. Bonjour.
Bonjour.
Heureux de vous accueillir sur l'antenne de Radio Campus pour cette présentation d'un thème assez original pour ma part, je trouve.
Oui, oui, je suis tout à fait ravie, en effet, de voilà de venir vous présenter cette exposition que nous avons que le Musée national de l'histoire de l'immigration a orchestrée, donc le Musée national hein, qui fait partie du Palais de la Porte Dorée. Donc juste très rapidement pour vous resituer, le Palais de la Porte Dorée, c'est une institution culturelle pluridisciplinaire. Qui est constitué à la fois d'un monument historique, le Palais de la Porte Dorée, d'un musée, qui est le Musée national de l'histoire de l'immigration, et de l'aquarium tropical. Le Musée national de l'histoire de l'immigration, il a ouvert ses portes en 2007, donc il y a, ça fait bientôt 18 ans, et voilà, et qui, dont le but est vraiment de changer les regards sur cette histoire de l'immigration. Et d'ailleurs, nous avons réouvert à l'été dernier, au printemps dernier, nos nouvelles galeries permanentes, notre nouvelle exposition permanente, avec un espace qui est entièrement renouvelé. Voilà, je vous invite à venir le voir, hein, et qui fait intègre les recherches les plus récentes sur l'immigration en France. Et il y a 5 ans, effectivement, alors qu'on réfléchissait à notre programmation, en fait, le musée a souhaité véritablement s'attacher aux migrations asiatiques, qui est un sujet qui n'avait jamais été abordé jusqu'alors au musée. Et en privilégiant comme ça une approche qui croiserait à la fois l'histoire avec l'art contemporain, et c'est vraiment l'ADN de nos collections, de notre musée, et c'est la richesse aussi de nos collections. Donc, ce qui a conduit à ce qu'on appelle une saison Asie, effectivement, si vous venez au Palais de la Porte Dorée, vous pourrez découvrir à la fois 2 expositions, une exposition plus historique sur les immigrations est et sud-est asiatiques en France depuis 1850 à nos jours, et puis une exposition d'art contemporain, une famille que nous avons orchestrée avec 2 commissaires invités qui sont Juan Rou et Evelyne Joanneau, commissaires avec lesquels nous avions déjà travaillé il y a 12 ans ensemble sur une exposition qui s'appelait J'ai deux amours. Donc vous voyez, j'ai deux amours, j'ai une famille, on reste toujours dans cette thématique. Et on a vraiment, on a voulu les rappeler parce que d'abord depuis 30 ans, hein, plus de 30 ans, Juan Rou et Evelyne Joanneau s'intéressent à ces questions migratoires, au thème du multiculturalisme, à la diversité dans les avant-gardes. Ils travaillent d'ailleurs en étroite collaboration avec tous les artistes que dont nous allons parler. Et ils impulsent d'ailleurs des orientations nouvelles sur la scène artistique française et internationale. Et on va le voir, cette histoire que nous racontons, c'est aussi leur histoire, parce qu'ils ont fédéré ces artistes qui sont arrivés en France autour des années 80-90. Voilà, donc c'est pour ça que nous les avons à nouveau réinvités.
Voilà. Alors, l'exposition. Oui. Donc, parmi ces artistes, certains sont décédés, d'autres sont bien vivants. On aura l'occasion tout à l'heure d'entendre Wu Xiaofan. Je peux peut-être dire les noms. Bon, excusez pour mon chinois très mauvais. Il y a Yang Peiming, il y a Wu Xiaofan, il y a Shen Zhen, il y a Jiang Tarai, il y a Huang Yongping, il y a Yang Jiechang, il y a Shen Yuan, il y a Wang Du, il y a Du Shenzhun, et puis Han Xiaotong.
Exactement. Voilà, c'est ça. Donc, en fait, cette exposition, c'est vraiment, c'est pas un panorama de la scène artistique chinoise, mais c'est vraiment le parcours et les œuvres de ces 10 artistes contemporains que vous avez, que vous venez de citer, et qui se sont installés en France au cours des années 80-90. Alors, effectivement, vous l'avez rappelé, donc on a 10 artistes, on a 2 femmes et 2 artistes, hélas, qui nous ont quittés, qui sont Chen Zhen et Wang Yongping, mais dont on peut trouver, voir leurs œuvres, admirer leurs œuvres dans le parcours. Et d'ailleurs, vous verrez que l'exposition, on va rentrer un peu plus longuement dans le cheminement de cette exposition, mais elle dévoile vraiment des univers, des langages singuliers et des médiums très divers. Hein. Vous allez trouver des sculptures, des installations, des peintures, voilà, des vidéos aussi. Et c'est vraiment des univers complètement divers qui dessinent finalement l'autobiographie de ces artistes et de leur parcours, avec des œuvres qui sont des œuvres puissantes, qui sont hybrides, qui sont poétiques et politiques aussi, hein, en même temps, parfois teintées d'ironie, d'humour, d'autodérision, mais aussi d'onirisme, de spiritualité. En tous les cas, des œuvres, vous allez le voir, nous allons le voir tout au long du parcours, qui nous ouvrent sur des mondes inconnus, qui nous étonnent, qui nous questionnent, qui nous alertent sur les bruissements de notre temps présent, qui aiguisent nos rétines et qui aussi n'oublient jamais leur part de secret, de mystère, de magie. Donc c'est vraiment un travail très fort de ces artistes.
Mmh. Alors, beaucoup de ces artistes ont été formés initialement en Chine et d'autres sont, enfin, et ils sont souvent venus en France ou dans d'autres pays, hein, découvrir un peu certaines formes d'art qu'ils ne connaissaient pas trop dans leur pays, notamment l'art contemporain. Donc il y a des écoles aussi, hein, qui les accueillent, notamment ici à Tourcoing, hein, et puis au Fresnois aussi, et puis aussi à Roubaix. Enfin voilà, il y a des oui. écoles qui permettent à ces artistes de développer éventuellement des projets, j'allais dire plus personnels, c'est pas forcément ça, mais plus inspirés peut-être de l'Occident.
Bien sûr, bah c'est exactement tout le nœud de l'exposition en fait. Alors ce qu'il faut rappeler, c'est que quand même ces artistes étaient déjà des artistes chez eux et que cette exposition, elle se place vraiment dans un moment géopolitique très précis, hein, parce qu'on est à la fin des années 80-90 quand ils viennent. C'est une époque qui est marquée par la politique de réforme d'ouverture de la Chine, hein, avec Deng Xiaoping, accompagné par la chute du mur de Berlin, la fin de la guerre froide. Tout ça va dessiner un nouvel ordre mondial. Et ces artistes qui sont vraiment déjà des artistes d'avant-garde, hein, d'ailleurs, à ce moment-là, il y a beaucoup d'expositions qui s'ouvrent aussi en Chine, qui fleurissent, des mouvements d'avant-garde qui fleurissent en Chine. Et puis, avec un désir de partir pour... certains d'entre eux, les raisons du départ, elles sont multiples, elles sont complexes. Volonté de se désir de se confronter à la modernité occidentale, comme vous venez de le dire. C'est le cas notamment Yan Peiming, qui arrive dès l'âge de 20 ans, en 80, parce qu'il veut se confronter à sa modernité occidentale. Il va rentrer dans les écoles des Beaux-Arts. Chen Zhen, c'est la même chose, hein, en 86. Il étudie à l'école des Beaux-Arts, puis à l'Institut des Hautes Études en Arts Plastiques. Et puis aussi, chez d'autres, il y a eu la volonté d'évoluer dans un monde plus libre, d'accéder à une plateforme artistique internationale. Et ils vont arriver en France un peu plus tard. Il y a cette phrase très belle de Chen Zhen qui disait « Il fallait trouver la force et l'audace de partir dans un pays étranger » dans le but de trouver une plus grande liberté dans la création des œuvres d'art. C'était le souhait commun de toute ma génération. Et c'est cette fuite spirituelle, hein, comme il les qualifie, qui va s'accompagner chez les artistes d'ouverture à d'autres cultures. Et effectivement, donc pas mal viennent en France, et pour ça, il y a deux raisons aussi qui sont très importantes, qu'il faut, à mon avis, souligner et citer. C'est d'abord l'exposition des Magiciens de la Terre qui a été orchestrée par Jean-Hubert Martin, vous savez, en 89, et qui présentait pour la première fois sur la scène internationale de l'art contemporain des arts non occidentaux. Et parmi les artistes que nous montrons, Yongping et Yang Qichang ont été invités à cette exposition. Et puis aussi, en 90, il y a une grande exposition qui s'appelait « Chine demain pour hier » dans le Var, et qui, pour la première fois, montrait des œuvres de l'avant-garde chinoise. Donc voilà, ils sont arrivés, mais par exemple, certains, comme Ai Weiwei, est allé aux États-Unis. Et quand ils arrivent en France, c'est extrêmement important parce qu'ils vont chacun va être confronté finalement à un nouveau contexte, à une nouvelle société, et qui va susciter, engendrer de nouvelles manières de penser, de créer, de voir, de nouvelles manières finalement d'être au monde. Et c'est ça qui est passionnant et qui va se refléter aussi dans leurs travaux plastiques.
Donc, ces artistes qui se sont installés en France, est-ce qu'ils ont éventuellement quelque chose par rapport à la France qu'ils ne trouveraient pas dans d'autres pays, j'allais dire occidentaux, pour résumer?
Alors, c'est une question un peu difficile parce que je pense que c'est plutôt des artistes qui sont vraiment sur cette ouverture et qui vont s'ouvrir à toutes ces cultures. Non seulement la France, bien sûr, pour la plupart, ils vivent en France, mais ils voyagent beaucoup, ils sont sans cesse aussi en circulation en Occident et ils reviennent aussi dans leur pays. Donc finalement, ils vont faire de tout cet apprentissage, de toutes ces cultures vont les nourrir. Il y avait cette très belle concept qui est forgé par Chen Zhen. Chen Zhen, il va parler de transexpérience. La transexpérience, finalement, c'est l'expérience que l'on fait. C'est l'enrichissement des cultures au contact les unes les autres. Hein. C'est l'expérience que l'on fait quand on va dans un pays, qu'on quitte son pays, qu'on va de pays en pays, qu'on s'enrichit comme ça au contact des autres cultures. Donc ça, c'est plutôt un enrichissement, voilà, de toutes ces cultures.
Mmh. Est-ce qu'ils ont constitué, alors là, on parle quand même d'une certaine génération, un petit groupe éventuellement où ils se concertent, ils se rencontrent, les dialogues.
Tout à fait, et c'est vraiment le sens du titre. Si vous voulez, voyez le titre « J'ai une famille ». En fait, quand ils arrivent en France, ces artistes, ils vont vraiment forger un réseau d'amitié solidaire. Certains se connaissaient déjà en Chine, d'autres vont se connaître ici en France, mais en France, ils vont créer ce réseau, ils vont partager aussi des expériences similaires, hein, face à l'isolement, face à la solitude, face à l'adversité, parfois face au racisme. Et ils vont se retrouver ensemble. Ils vont créer non pas une école, non pas un courant artistique, mais véritablement une famille, je dirais une famille d'élection, voyez, où ils vont se retrouver, ils vont avec des affinités intellectuelles et ils vont tisser véritablement des relations en diaspora. Moi, j'ai eu la chance de les connaître tous, évidemment, de travailler avec eux pour préparer cette exposition depuis maintenant 3 ans. Et je peux vous dire que je sens complètement cette famille, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on va chez l'un ou chez l'autre pour boire une œuvre, pour discuter, pour faire des choix de sélection dans la liste d'œuvres, on est toujours accueillis extrêmement chaleureusement et on se sent nous-mêmes presque en famille. Donc d'où le titre, il crée vraiment cette famille qui est la famille. Chen Yuan avait cette phrase très très jolie, elle disait nous les artistes immigrés on est arrivés mais pas complètement, on a atterri et pas complètement, et en fait cette famille c'est comme une ville dans une ville, un pays dans un pays, voilà, c'est vraiment cette idée de se retrouver, cette solidarité qui les réunit.
Alors, cette exposition donc qui s'appelle J'ai une famille, vous l'avez dit Isabelle Renard, elle est ouverte jusqu'au 18 février, si ma mémoire est bonne. Hein. Et est-ce que vous pouvez nous dire si les nouveaux artistes chinois qui viennent d'arriver, je veux dire la génération des 10 dernières années, hein, on en connaît beaucoup ici en région Hauts-de-France, sont intéressés par votre exposition? Est-ce qu'ils viennent et est-ce qu'ils ont peut-être des échanges?
Alors, c'est un peu pour moi difficile de répondre parce que je ne suis pas à l'accueil, donc les artistes ne se présentent pas toujours quand ils viennent, mais je pense qu'effectivement, j'ai eu l'occasion de faire de nombreuses visites, et il y a notamment beaucoup de jeunes artistes aussi. Vous savez, on a fait une présentation avec Juan Ru et Lin Joano dans le cadre de la foire Asian Hao, et je sais que beaucoup de personnes sont venues à la suite voir parce que, effectivement, il y a c'est un dialogue fructueux qu'il mène comme ça avec ces artistes d'une autre génération, mais qui continue à voir effectivement. Et puis on a aussi une artiste comme Anne Chiotong qui est un peu plus jeune, qui continue, qui travaille évidemment avec toutes ces personnes.
Voilà, donc je pense qu'on peut dire que dans le temps, ces artistes de cette génération 80, 90, presque 2000, et l'autre qui est arrivé de 2000 à 2023, prolongent bien des évolutions aussi, des courants de l'art aussi, dont ils se sont inspirés. Et qu'est-ce qu'on peut dire qu'ils amènent de spécifique éventuellement?
Alors, c'est c'est incroyable parce que leur travail, alors c'est vraiment, il faut voir l'exposition pour le comprendre, hein, mais comment ils vont finalement arriver dans cette société nouvelle qu'ils découvrent, qu'ils les fascine. Ils vont être certains, comme Chen Zhen, fascinés complètement par cette société de la consommation qu'ils vont essayer de comprendre, de retracer, de décrire. Ils vont développer un sens critique aussi très fort. Et, d'autres sont intéressés, comme Wang Du, par cette société de l'information. Et donc, ils vont aussi faire leur création à travers ça. D'autres, à l'image de Du Chenchun, vont être vraiment intéressés par cette société nouvelle des ordinateurs. Et donc, en fait, ce qui est très intéressant, c'est qu'au cours de l'exposition, on voit à travers ces œuvres que l'exil n'est pas forcément au cœur de toutes les œuvres, mais il est constitutif de leur processus créatif et il va vraiment engendrer une nouvelle manière de voir, une manière de se confronter au monde, et que, en fait, ils apportent vraiment, on pourrait dire, un souffle nouveau qui est entre influence, inspiration, apport. Ils vont développer une approche critique, ils vont inventer surtout de nouveaux langages, et ça, c'est très, très fort. On voit parmi des pièces, je vais peut-être vous en décrire une ou deux, et ils contribuent vraiment de manière significative à cette transformation de la scène artistique contemporaine, je dirais pas simplement française, mais internationale. On a par exemple des œuvres de Shen Yuan qui fait des pièces où vous êtes accueillis dès l'entrée de l'exposition. Donc l'exposition est à l'étage du bâtiment, il faut monter des escaliers. Et quand on monte les escaliers, on est accueilli à un moment sur les murs comme ça qui jouxtent les escaliers par des centaines de petites chaussures qui sont des chaussures à la fois qui datent de la dynastie Ming, des toutes petites chaussures comme ça colorées et puis des chaussures qui sont noires. Ça, l'œuvre s'appelle Uncomfortable Shoes, et en fait on voit des centaines de chaussures qui dansent sur les murs, donc des chaussures de lotus d'or de 3 pouces et ces chaussures noires, et qui laissent apparaître une phrase, et cette phrase signifie: elles sont parties, pourtant elles n'ont nulle part où aller. Donc c'est une œuvre, comme je disais, qui rappelle aussi bien la dynastie Qing qui imposait aux femmes de bander leurs pieds dès leur plus jeune âge, mais aussi la révolution culturelle qui uniformisait le style dans une même couleur noire. Mais au-delà de tout ça, et vous comprenez bien, avec ce titre, avec ce travail, Uncomfortable Shoes, ces œuvres évoquent, ces chaussures évoquent véritablement les flux migratoires contemporains. Donc c'est une œuvre qui est une métaphore infinie de l'exil, et qui font d'ailleurs écho aux paroles de l'artiste elle-même qui dit: mais émigrer, c'est fuir un espace ou chercher à occuper un autre espace. Il y a une autre œuvre qui est très belle et très poétique, et c'est l'œuvre la plus petite de cette exposition, qui s'appelle Empreinte digitale, où en fait on peut voir sur une petite tranche de jambon, de camp, pas plus précisément, l'artiste, toujours Shen Yuan, a brodé au fil d'or comme ça les empreintes de son pouce. La tranche de jambon, au fur et à mesure de l'exposition, et déjà on peut le voir maintenant, hein, elle change d'aspect, elle se noircit, elle prend des formes comme ça, à l'image des parcours migratoires comme ça, qui sont toujours en mouvement, alors que l'empreinte, elle, ne va pas bouger, symbole de l'identité. Donc vous voyez, il y a vraiment, ils innovent par des langages, par des formes totalement nouvelles, donc ils s'inspirent et ils vont en même temps apporter leur souffle nouveau, leur coloration nouvelle.
Voilà, c'est vrai que selon les époques, hein, les modes évoluent, les contraintes peut-être changent. Je pense par exemple en France à toutes ces femmes corsetées durant très longtemps.
Oui.
On pourrait faire un parallèle avec les petits pieds.
Ah oui, oui, non, mais cette œuvre est très très belle. On est très content parce qu'on. On l'a acquise en 2020 et voilà, et ce sont aussi des œuvres totalement polysémiques parce que, comme je vous disais, qui parlent à la fois effectivement de l'histoire qui fait référence aussi à l'histoire de la Chine, mais qui évoque cette migration, donc qui évoque, ce sont aussi des autobiographies des artistes. Il y a d'autres œuvres, par exemple de Wang Du, vous êtes accueilli par une deuxième œuvre sur le palier qui est une espèce d'énorme sculpture en résine comme ça, on dirait presque une boule de papier froissé, puis quand on se rapproche de cette boule de papier froissé, on voit que c'est une une du Monde, du journal Le Monde, voyez, qui est comme jetée comme ça. Et Wang Du, contrairement à d'autres artistes qui, eux, quand ils sont venus, ils voulaient vraiment se confronter à cette modernité occidentale, ils sont allés voir les musées, etc. Lui, ce qu'il a vraiment influencé, Il le dit d'ailleurs, ce n'est pas tant les arts de Paris, mais c'est vraiment l'information. Il le dit d'ailleurs plus précisément, la perturbation de l'information diffusée chaque jour par les médias. Et ça, il va finalement en faire son outil de prédilection. Et c'est ça qui est passionnant, c'est-à-dire qu'il va se faire lui-même une doublure des médias pour définir les choses. Et très souvent, donc là, la sculpture, il reprend une du papier journal comme ça qu'il froisse et qu'il jette au sol. Donc il va passer d'une source plane en 2D à une sculpture en 3 dimensions, et il nous invite véritablement à cette confrontation avec les masses médias. Et déjà il porte un regard critique sur cette société d'information qu'il découvre et qui finalement jette immédiatement ce qu'elle a à peine consommé, ce qu'elle a à peine lu. Donc c'est vraiment intéressant comment ces artistes aussi nous amènent à prendre conscience, à avoir un regard critique sur notre propre société.
Alors c'est vrai, ce qu'ils pensaient à une certaine époque, c'est encore plus vrai maintenant, bien sûr, hein. Et donc ils étaient déjà dans une réalité qu'ils projetaient peut-être déjà comme univers à venir pour nous.
Oui. Ben, en fait, moi, ce que je vois, c'est qui me frappe beaucoup. Il y a des pièces, il y a une autre pièce de Chen Zhen qui est une pièce magnifique et très importante, qui est une pièce qui s'appelle Round Table, qui est une grande table ronde comme ça, qui fait penser aux tables des repas chinois, hein, vous savez, voilà, avec une table au milieu qui tourne, et qui en même temps qui est une pièce très forte qui avait été faite pour les 50e anniversaire des Nations Unies. Et sur cette pièce, donc qui symbolise effectivement un peu un objet usuel de la vie quotidienne, à la table des repas de fête chinois avec son sens de l'harmonie, du dialogue. Et autour de cette pièce sont encastrées 29 chaises qui viennent des 5 continents, qui symbolisent toutes les classes sociales, mais elles sont encastrées, elles flottent un peu au-dessus du sol, et au milieu est gravé un extrait de la Déclaration universelle des droits de l'homme en chinois. Donc c'est un peu une œuvre paradoxale, parce que effectivement, c'est une pièce très équilibrée, un rêve d'équilibre, d'idéal de communion, de parité, mais qui fait penser aussi à la difficile communication entre les nations lors des grandes négociations. Donc, ce sont aussi des œuvres qui sont extrêmement fortes, extrêmement visionnaires. Je pense à une autre œuvre aussi que nous avons de Ming, qui est une œuvre très forte, qui est une peinture, voilà, Ming qui est très connue pour ses portraits monumentaux, mais qui depuis toujours s'intéresse évidemment à la politique, à la société de son temps, et qui éprouve vraiment, vous m'entendez toujours, parce que
oui, oui, tout à fait, je vous laisse.
Qui éprouve vraiment cette nécessité de peindre d'actualité. Et là, c'est une œuvre vraiment très forte, une œuvre qui s'appelle Moonlight, c'est de l'huile sur toile, hein, qui donne le ton, où on voit finalement un bateau, on voit d'après ces grands aplats de peinture, quand on recule un petit peu, on voit un bateau comme ça, qui s'esquisse, qui se dessine, qui sort d'une forme de pénombre, d'un clair-obscur magistral avec des personnes dessus. Et c'est un peu un titre oxymore, hein, de l'œuvre qui s'appelle Moonlight, et qui, à la poésie du clair de lune insufflée par le titre, s'oppose finalement à la tragédie qui sourd, qui est celle des naufragés du temps présent. Donc vous voyez vraiment des artistes qui sont complètement aussi, moi je suis marquée par la force visionnaire finalement de leurs œuvres, qui pour certaines ont été faites, celle de Moonlight en 2011, la table ronde de Chen Zhen a été faite en 1995, je ne vais pas dire de bêtises, et en même temps qui sont complètement toujours d'actualité. Donc c'est vraiment un travail effectivement pour moi très fort et toujours extrêmement d'actualité.
Merci Isabelle Renard, donc pour cette exposition qui se déroule encore jusqu'au 18 février, oui, hein, on va le dire. Est-ce que pour mieux comprendre l'univers de ces artistes, il y a des petites explications sur place dans ce musée national de l'histoire de l'immigration?
Tout à fait, c'est une exposition, donc il y a les deux expositions de la saison asiatique que vous pourrez découvrir, à l'étage. Il y a donc l'exposition « J'ai une famille », qui est une exposition avec autour de l'œuvre de 10 artistes, une trentaine d'œuvres, dans un espace où, où vous allez voir qui est très, très agréable, une déambulation très agréable, où on a vraiment voulu privilégier le dialogue entre les œuvres, okay, qui se répondent, qui conversent entre elles. Et à chaque fois, on a un texte de deux parties. C'est une exposition qui est scandée par 5 grandes parties. Et pour chaque œuvre, nous avons un cartel que nous avons rédigé effectivement avec Anne-Rou, Evelyne et aussi notre assistante d'exposition, Chloé Dupont, et qui retrace l'œuvre dans son contexte et qui parle de l'œuvre.
Voilà, il n'y a plus qu'à venir alors. Merci pour cette proposition.
Venez très nombreux et vous allez voir, il y a beaucoup de choses à découvrir au Palais de la Porte Dorée. Il y a effectivement ces deux expositions, mais aussi le nouveau parcours permanent. Et aussi pour ceux qui voudraient passer leur journée, il y a un aquarium formidable avec une exposition sur le Jobamena. Donc vous pouvez passer toute votre journée au Palais de la Porte Dorée.
Un grand merci à vous. J'espère qu'on pourra tous venir.
Ah oui, avec plaisir, nous serons heureux de vous accueillir. Vous écoutez Radio Campus 106,6 FM. Guns of Brixton, c'est le titre de cet album Dub Mentor featuring Ian June. Dans quelques instants, on va retrouver Hu Xiaofan. L'un des 10 artistes donc, de cette exposition que nous venons de vous présenter.
Oh, Brixton, Tiens, oh Brixton, tiens. Oh Brixton, tiens. Oh Brixton, tiens.
Voilà, voilà, Radio Campus 106,6 FM, nous sommes en direct avec Roussio Fan. Bonjour.
Bonjour.
Heureux de vous accueillir sur notre antenne et puis de faire votre connaissance.
Oui, je m'appelle Roussio Fan.
Voilà, Roussio Fan. Oui. Et donc, vous êtes présenté actuellement, on vient d'en parler, au musée, donc... national de l'immigration. Est-ce que vous pourriez nous dire, selon vous, pourquoi vous avez été sélectionné? Quels sont vos rapports à ce musée? Et qu'est-ce qui vous intéresse dans le fait d'y être exposé?
Ah, d'accord. Et comment j'étais sélectionné? Ça, je ne sais pas, c'est M. Hohanru et M. et Mme Hohanru et Evelyne Joanneau. Ils sont deux commissaires. Je pense qu'ils ont choisi des artistes chinois qu'on était souvent ensemble, pas uniquement de travail, mais donc ça veut dire qu'on a une vie très en commun, se voit assez souvent, communique assez souvent. Voilà, on a la même, comment dirais-je, on a même l'esprit de vie,
voilà.
Hein, plus ou moins.
Donc c'est voilà. Vrai qu'on a dit que c'était un peu une sorte de famille de l'époque, artistiquement.
Oui. Enfin, dans l'art, on n'a pas le même concept, mais... Et ça ne dérange pas de on réunit assez souvent. On a surtout, il y a une très proche de l'esprit. Et comment dirais-je, là je suis un peu perdu sur quelques mots en français. Oui.
Oui, oui. Donc, vous avez été formé en fait à Nankin, c'est ça, Nanjing?
Oui, moi j'étais diplômé à Nanjing en 1982. Mm-hmm. Et je restais un an après le diplômé, diplômé en Chine. Et puis je suis venu en France, donc j'ai été en tant que visiteur pour le Beaux-Arts de Paris.
Et vous êtes passé aussi un peu par l'Espagne, il me semble.
Oui, c'est ça. Après le diplômé, quand je reprends études pendant 3 ans à l'École des Beaux-Arts de Paris avec Monsieur Olivier Debré. Mm-hmm. Et après, je finis l'étude. Donc, j'ai eu un diplôme à l'École des Beaux-Arts de Paris. Et voilà, donc j'étais boursier à Casa Velázquez à Madrid.
Très bien. Donc, vous avez en fait deux... façon de vous exprimer, la peinture et la sculpture.
Oui, je suis plutôt peintre, mais il y a des éléments que je trouve que c'est la sculpture qui peut plus exprimer mon esprit. Voilà, mm-hmm. C'est pour ça que je fais des sculptures. Oui.
Alors, quand je vois votre peinture Hommage à Velázquez, franchement, oui. vous êtes vraiment bien inspiré de l'artiste.
J'essaye.
et ça donne tout de suite. On a des. Bah c'est pas une scène réelle d'un tableau de Velázquez, mais on sent l'inspiration et l'intention. C'est un petit peu en même temps un peu humoristique quelque part.
Oui. Enfin, humoristique pour moi c'est important parce que humoristique qui a plus de métaphores parce que. C'est pas l'histoire qu'on raconte, mais c'est plutôt on passe un message. Alors, ça fait longtemps que je travaille sur enfin, études, en même temps travailler, études sur l'art ancien, soit chinois, soit, enfin, soit occidentaux. Donc, et c'est là que j'inspire beaucoup. Et puis, en même temps, je continue à apprendre.
Alors, on voit beaucoup aussi dans vos tableaux de bambou. Est-ce que pour vous, c'est quelque chose qui est important en termes de symbole de vie? Et on le retrouve, le bambou, dans des scènes parfois très cocasses. Avec, je vois par exemple la pièce qui s'appelle Bambou et qui est de 2016, où vous mettez aussi des personnages avec du vent, etc., qui fait s'envoler des feuilles. Donc ce n'est pas des feuilles de bambou, là, ce sont des feuilles d'écriture. C'est assez étonnant.
Oui, alors, enfin, bambou, d'abord, c'est un thème assez important dans l'art chinois, soit dans la poésie ou dans la peinture chinoise traditionnelle. Ces quatre éléments de nature, enfin, des végétaux, qui est très, comment dirais-je, très... très utilisé pour parler, comme c'est très poétique en même temps qui parle comme un esprit de humain, voilà. Et je commençais, c'est vrai, faire utiliser le bambou, mais c'était pas dans le même esprit, parce que en fait ça reliait avec depuis quelques années. Ça fait longtemps que je regardais le tableau de tableau ancien, tableau de Renaissance. Par exemple, il y a un tableau à Louvre de Paolo Uccello, au fond noir avec des soldats avec leur lance, des lances. C'est un tableau de guerrier. Donc c'est un tableau que je suis allé en Louvre le voir, je ne sais pas combien de fois. Donc chaque fois, j'étais très ému sur ce tableau. Et un jour, je dis que peut-être je pourrais faire utiliser le bambou comme une sorte construction ou une composition pour faire quelque chose. C'est là que je commence à faire du bambou, en fait.
Et alors, dans certaines de vos pièces, on voit une inspiration aussi flamande des tableaux qu'on peut voir, à Anvers ou à Gand ou ailleurs.
Oui, en fait, j'ai inspiré beaucoup des peintures anciennes, même peintures contemporaines. Mais surtout, une chose importante, c'est que j'ai essayé d'utiliser comme une sorte de langage. Qui parle chaque fois en scène pour qui enfin soit très poésie ou soit très métaphore. Et en même temps, par exemple, peut-être vous connaissez dans la civilisation chinoise, je pense que c'est le 5e siècle après Jésus-Christ, il y a des poètes ou intellectuels chinois qui sont quitter la ville, réunir dans la forêt de bambou. Ça s'appelle le sept sages dans la forêt de bambou.
Oui, ben, d'ailleurs, donc, j'ai pris des photos là où il y a ce fameux poète chinois qui se sentit très inspiré, surtout en buvant beaucoup d'alcool aussi.
Voilà, c'est un des poètes que je préférais, parce qu'il y a on a découvert très peu de poésie, mais il y en a un qui l'écrit que c'est extraordinaire. Donc, juste résumé, hein, il prend le ciel, la terre comme sa maison qui allonge par terre, voilà, qui regarde le ciel. Donc c'est très émouvant. C'est là que je fais une série, ça s'appelle Ivresse. C'est les c'est des comment dire, je raconte l'histoire de bambou. Donc c'est souvent c'est mon travail un peu ça, donc parce que je suis beaucoup inspiré dans la littérature, enfin qu'on disait avant. Donc comme j'utilise certains éléments, c'est comme une scène de théâtre. C'est un théâtre absurde, bien sûr, mais en même temps qui peut passer des messages. Chacun lit ou chacun regarde, prend sa façon de se poser des questions.
Alors, on voit beaucoup le bambou qui a beaucoup inspiré la peinture chinoise. Hein. On voit moins, par contre, les grands paysages taoïstes, etc. Donc là, vous êtes débarrassé un petit peu de ce côté de la culture?
Non, ça existe, mais bon, on peut pas. Enfin, pour l'instant, j'utilise le bambou, mais c'est pas tout à fait des bambous traditionnels. Donc, des bambous dans les forêts de bambous, il n'y a pas de feuilles. Ou soit les feuilles sont tombées, ou soit il n'y a plus de feuilles. C'est juste une construction de scène.
Voilà. Donc il y a des œuvres qui sont humoristiques assez rapidement quand on les regarde comme ça, on le voit, et d'autres qui sont plus profondes. Il faut bien regarder pour voir les critiques. Enfin, je ne vais pas dire les critiques, mais les choses que vous voulez un peu utiliser pour provoquer le regard.
Oui. Écoutez, la peinture, enfin l'art, pour moi, c'est une vie. C'est une vie, surtout c'est une vie d'un artiste. Et un vrai vie d'un artiste. C'est là qu'ils sont de vraies identifications. Je suis un Chinois, souvent les gens m'ont posé la question, justement, il y a encore de récemment, il y a des gens encore me demandaient ça. Et quelle est l'identification de ma culture orientale? Et pour moi, donc, je ne cherchais pas l'identification dans cette façon. Et là, pour moi, l'identification, c'est ma vie qui se montre. La façon de montrer, c'est mon art. L'art, c'est un miroir pour moi. Donc, c'est là que je retrouve ou comment reconnaître moi-même.
Alors, dans vos sculptures, vous avez tendance aussi à remplacer des têtes par des choses plutôt rondes qui peuvent éventuellement évoquer des têtes, mais qui transgressent un petit peu la réalité.
Oui, en fait, c'est pas vraiment c'est pas une image que je montre, c'est plutôt un esprit que je montrais. Parce que là, si on parle de la culture orientale, enfin, de ma propre culture, et donc on a toujours recherché un voie au milieu. Donc, j'ai lu quelques petites parties de comme philosophe. Au cinéaste, non, c'est pas cinéaste, c'est philosophe de, comme François Julien, par exemple, qui a écrit un texte sur le Confucius. Je trouve ça très intéressant, c'est là que j'ai pris beaucoup de messages, mais je suis pas quelqu'un qui est étudié de philosophie, mais j'aime bien essayer de lier avec mon travail pour se poser la question. Donc, le bambou qui tourne, on sait que le bambou qui est toujours droit. Donc, en métaphore, donc, il est pris, mais il ne casse pas. Mais c'est là que je vais faire le bambou qui tourne sur une case, par exemple. Une case que soit, je fais une case, soit une case on ne voit pas. C'est comme notre vie, notre vie est en l'air, mais ce n'est pas vraiment en l'air. On est toujours concerné par. Comment dirais-je, par tous les forces qu'on voit ou voit pas, mais on sent. Donc c'est là comment on peut vivre chaque personne sans propre façon. Là, quelquefois, il faut, comme les bambous, il faut lutter, il faut le tourner, il faut trouver l'issue, il faut s'en sortir. Donc ça, c'est pour moi, c'est une voie d'or. C'est une voie d'or, soit pour la vie d'un artiste ou d'une personne, et même aussi pour la politique ou pour moi, c'est plein de choses. Je ne sais pas. Voilà, ça, c'est juste ce que je pensais. C'est pas pour confirmer quelque chose. C'est pas pour donner un résultat pour répondre à une question. C'est juste une façon de montrer la voie, ça se peut pas expliquer. Voilà.
Donc, quelles sont les œuvres qui ont été sélectionnées par le musée, hein, qui présente cette exposition? Est-ce qu'elles reflètent, on va dire, globalement l'ensemble de ce que vous produisez, ou est-ce que vous auriez encore aimé amener d'autres choses?
Alors, actuellement, c'est ça que j'ai dit tout à l'heure, que les tableaux que je fais, c'est pas vraiment, peut-être c'est un côté un peu trop intellectuel, mais je ne suis pas vraiment intellectuel. Mais par contre, que chaque tableau quand j'ai abordé, donc c'est toujours essayer de construire comme une scène, une pièce de théâtre. Mm-hmm. Voilà. C'est là que je fais beaucoup de temps de construire un tableau pour que je puisse rentrer dans le tableau et communiquer. Et donc, là, actuellement, donc, je fais par exemple, des bambous, mais des bambous, pas uniquement des bambous, il y a beaucoup de choses à rapport. Et le expo dans le musée d'immigration, ça, c'est le commissaire qui l'a choisi, une série que je suis en train de travailler. J'avais fait montrer un grand dessin l'année dernière à Rome. Et c'est là que j'ai commencé aussi étudier ces deux tableaux pour donner une image. C'est pas donner une image de Velázquez. Bon, Velázquez qui a déjà créé cette œuvre. Et il y a beaucoup de choses pour raconter. Donc j'ai utilisé cette scène et aussi par beaucoup de grands artistes qui est vraiment intéressé, influencé, travaille dessus. Et moi, ce que je fais, c'est presque la même façon, mais c'est un peu vis-à-vis de moi-même, voir comment c'est plus ironique, comment c'est plus intéressant, et puis dans la nature. Et c'est quelque chose c'est très actuel. Voilà.
Voilà. Donc, en fait, moi, je suis allé voir, bien sûr, votre travail que vous présentez sur votre site, hein, roussiaofan.com, et oui, ça m'a beaucoup séduit, en fait. Et bien sûr, voir aussi en vraie dimension dans ce musée, c'est quelque chose d'essentiel pour bien apprécier vos œuvres.
Merci beaucoup. Et c'est une série, je continue à travailler. Ça, c'est la première version, parce que je fais 3 grands tableaux et puis je fais beaucoup d'études. Et là, je vais continuer donc, pour essayer d'évoluer.
Bien, merci beaucoup, Roussiaofan, pour cet entretien et puis au plaisir de venir visiter vos œuvres donc, au Musée national de l'histoire de l'immigration et donc visible, je pense, hein, vos œuvres encore jusqu'au 18 février, c'est ça?
Oui, c'est ça, oui.
Merci et très bonne journée.
Vous aussi, avec plaisir.
好美好美的红蔷薇，可恨